Vous savez, nous sommes dans le contexte ces jours-ci de la jeune église, si je parle fort, peut-être ça ira quand même, de Corinthiens, où les frères et les sœurs, à cause d'une mauvaise compréhension de la spiritualité, ils trouvaient bien de divorcer. Ils se posaient la question, est-ce que c'est bien de rester marié finalement quand on est chrétien? Alors ça peut sembler surréaliste, mais c'était les questions qui se posaient à l'époque. Et l'apôtre Paul, dans ce passage, vient juste avant d'annoncer que non, il faut rester marié. On va lire maintenant la suite, en 1 Corinthiens chapitre 7, versets 17 à 24, que je vais lire dans la version... Second 21. Verset 17, 1 Corinthiens chapitre 7. Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Quelqu'un est-il circoncis quand il a été appelé, qu'il ne cherche pas à le cacher? Quelqu'un est-il incirconcis quand il a été appelé, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Que chacun reste dans la condition qu'il était la sienne lorsqu'il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Le titre du message, donc, semble tout naturel pour nous ce matin. On le trouve au verset 20. Que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. J'ai découpé ce message en trois parties. Le chrétien ne change pas de vie. Le message, un message central et important. Et enfin, pour terminer, la vie du chrétien change tout. Le chrétien ne change pas de vie. Le chrétien reçoit un appel qui ne change rien. Qu'est-ce que le mot appel et quelle importance a-t-il? Dans notre texte, 8 fois le mot appel revient. Et le sens de l'appel, c'est un petit peu le même sens qu'en français, c'est-à-dire c'est l'appel qu'on appelait une personne. C'est aussi le fait d'être appelé par un nom lorsque on était enfant. Nos parents nous ont donné un nom par lequel on nous appelle, on est appelé par notre nom. Et également, ça a le sens d'une invitation officielle où, par exemple, on voit dans les évangiles, lorsque ce monsieur fait un grand mariage pour des noces, il appelle beaucoup de personnes, venez, j'ai tout préparé. C'est une invitation c'est aussi ce sens-là du mot appel, une invitation que l'on trouve dans la Bible. Si Morel était invité à Ratier par le grand patron pour parler de nouveaux produits qu'ils vont fabriquer, par exemple, et donc Morel serait invité, ce serait un appel qu'il recevrait, mais ce serait un appel qui ne manquerait pas non plus, parce que ce serait manquer d'honneur à son patron que de ne pas venir une invitation où il a été choisi. Donc il y a ce mot-là, ce sens-là aussi dans appel, une invitation officielle. Et ici, il s'agit de l'appel de Dieu. Pour comprendre ce qu'est l'appel de Dieu, on peut regarder dans nos Bibles ce qu'il en était pour Israël, le peuple élu de l'Ancien Testament. Et en Ésaïe 43, on trouve un verset que je vais vous lire qui résume bien cet appel de Dieu dans son contexte. Ésaïe 43, chapitre 1. « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ne crains rien, je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Et on peut également chercher les paroles de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 27 à 28. Si quelqu'un veut tourner dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 27 à 28. On trouve ceci, hein, l'évangile de Jean. Chapitre 10, c'est l'enseignement sur le bon berger. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ralliera de ma main. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Marcher tel que l'on est, ou avec ce que l'on a reçu, le verset 17 dit ceci, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ce que je prescris dans toutes les églises. Alors, il y a trois choses qui nous différencient les uns des autres. Il y a la façon dont on est créé. On est tous différents ici dans la salle. On a des cheveux différents, un visage différent, des aptitudes différentes qui ont été créées, que Dieu a créées. C'est créationnel. Il y a également l'éducation que nous avons reçue, ce que nous avons reçu à travers nos parents ou à travers notre contexte, là où nous avons grandi. Et il y a également quelque chose qui nous différencie, c'est le parcours de vie que l'on a mené, par où on est passé, ce qu'on appelle avoir de la chance ou de la malchance dans la vie. On a tous un parcours différent. Et donc Dieu nous a donné cette part, et avec cette part, eh bien, il nous dit, ben, vous marchez, vous avez été appelés dans telle condition, il faut assumer ce que vous êtes, au verset 18 de notre texte, où il parle de cette question d'être circoncis ou incirconcis. À l'époque, c'était une question qui tracassait toutes les églises. Est-ce qu'il... L'appartenance au peuple de l'ancienne alliance, est-ce que c'est important ou pas quand on devient chrétien? Et donc on pouvait être non-juif et puis envier les juifs qui avaient des privilèges, et Paul les cite dans l'épître aux Romains, l'adoption, la gloire, les alliances, le culte, les promesses, les patriarches. Alors la tentation peut-être de se faire juif, ou bien quand on était juif, on pouvait avoir honte de son peuple, honte de ce qu'il n'ait pas reconnu son Messie, honte de ce qu'il est cloué à la croix, et vouloir se faire grec, tout ça ne compte pas, dit l'apôtre. Hein. Aujourd'hui, on peut être né dans une famille chrétienne, on peut être, par exemple, enfant de pasteur, mais cela ne compte pas. Ou bien on peut être jeune, avoir trouvé le Seigneur très jeune, avoir vécu toute sa vie avec lui, mais cela ne compte pas le fait qu'on soit jeune, ou que l'on soit âgé, que l'on soit à l'aube de son départ, quand on connaît le Seigneur, cela ne compte pas. Qu'est-ce qui compte? C'est au moment où on se convertit, de garder les commandements de Dieu. Garder les commandements de Dieu. Après sa conversion, on garde les commandements de Dieu, ce que dit l'apôtre au verset 19. Et donc notre verset 20 reprend ceci, que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a appelé. Et cette église va ressembler à quoi alors? Une église composée de gens différents qui vont rester différents. Est-ce que vous vous souvenez de Thierry Rougeau, là, le biker, le motard? Vous l'avez connu, vous savez, il avait été baptisé dans notre église. Ben, il était un motard, un biker, il est resté comme ça, après sa conversion. Et il avait démonté sa moto, toutes les pièces, il les astiquait, remonté toute sa moto, toutes les pièces, il les astiquait. Et puis il faisait ça pour Jésus. Il est resté biker, il témoignait auprès des bikers. C'était son appel. Il n'a pas changé ce qu'il était. On a été également dans l'église, vous vous souvenez, l'année dernière, on a fait une distribution des évangiles. On était quatre. Donc il y avait Jean-Philippe, il y avait Philippe, il y avait Alain, il y avait moi-même. Alors, des personnes très différentes. Si vous me connaissez, vous voyez qu'on est vraiment d'arrière-plan différents et vraiment très différents les uns des autres. Et ça fait un drôle d'attelage, hein, si vous imaginez le film de Ben-Hur, là, avec les trois chevaux, là, tous de la même couleur, tous qui vont ensemble. Ben, ça aurait fait un équipage dépareillé. Mais c'est ainsi que nous avons distribué les calendriers, nous avons travaillé ensemble, ce qui fait un témoignage quand même de la fraternité à laquelle l'humanité soupire, et soupire après une fraternité entre tous les hommes. Et voilà que dans l'Église, cela se produit, déjà très différents les uns des autres, qui s'aiment et qui travaillent ensemble. Personne ne peut dire... Oh, je suis trop différent de ces gens-là. Il n'y en a aucun parmi eux dans l'église qui me ressemble. Il y aura toujours quelqu'un dans l'église qui vous ressemblera et qui ressemblera à celui qui est perdu et qui cherche le salut. Il va trouver toujours quelqu'un dans l'église avec qui il va pouvoir communiquer, être compris. Et c'est formidable, la diversité dans l'église de Jésus. C'est une de ses richesses. Et l'apôtre veut que... Ben voilà, le but, c'est pas quand on se convertit, c'est pas de changer sa vie. Non. Le message central est important. Trois fois, il le répète. Hein. Un message central répété trois fois dans ce texte, au verset 17, au verset 20 et au verset 24. Et la répétition dans la parole de Dieu, c'est quand on veut insister. Quand la parole de Dieu veut insister, elle répète les choses. Et nous, on dit c'est très important, ou c'est super important, ou c'est archi important. Mais dans la Bible, on va trouver des répétitions qui permettent également de faciliter la mémorisation. Le verset 17, donc, marcher avec ce que l'on a son appel, qui est valable dans toutes les églises. Le verset 20. Demeurer dans les conditions que l'on avait à son appel. Et le verset 24, demeurer devant Dieu de ce que l'on était au moment de son appel. C'est un enseignement répété, c'est un enseignement central. La construction du texte est très intéressante. Il y a le verset 20 qui est au centre. Et en miroir, vous avez deux versets. Le verset 17 et le verset 24, et entre chaque miroir en symétrie de ce verset 20, il y a deux illustrations qui sont données avec le peuple, la question de la circoncision et avec la question de l'esclavage. Et donc, et au-delà de ce texte-là, il y a l'enseignement général du mariage, tout le début du chapitre, et l'enseignement général sur le célibat, toute la fin du chapitre, qui reprennent et qui vont s'articuler autour de cette vérité centrale. Donc, un enseignement central dans notre texte, un enseignement pastoral aussi, parce qu'il y a le verset 21, je vous invite à regarder de près ce verset 21. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Es-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Il y avait 400 000 esclaves à Corinthe, du temps de l'apôtre Paul. Une grande quantité d'esclaves, et les esclaves, il y en avait bien sûr dans l'Église. Alors, quelle est la condition de l'esclave à ce moment-là? Ben, vous savez, l'esclave, ça n'a droit à rien. C'est considéré comme un bien que l'on peut vendre et acheter, et qui a plus ou moins de valeur, suivant son âge, suivant sa santé, suivant son éducation. Sa valeur sur le marché varie, mais c'est le même droit qu'une marchandise, pas plus. Alors, est-ce que Paul dit dans ce texte, esclave tu es, esclave tu dois rester? Est-ce là l'enseignement de l'apôtre Paul? Est-ce que Paul serait favorable à l'esclavage, au statu quo social? Je ne pense pas. Il dit plutôt, ne te fais pas de soucis si tu es esclave. Aux yeux de Dieu, tu es un homme libre, de grande valeur, racheté par le sang du Messie. Ne te tracasse pas de cela. Tu n'es pas dévalorisé en rien par rapport à tes frères et sœurs de l'Église, ni par rapport à moi. Mais si tu peux devenir libre, vas-y. Il y a comme une exception là qui est donnée par Paul. L'enseignement de rester dans l'état dans lequel on était est général, mais il y a des exceptions pragmatiques et en voilà une. Il y en avait une autre un petit peu plus haut quand il s'agissait de savoir si on pouvait se séparer ou pas lorsqu'on était marié avec un non-converti. Mais il y a des cas d'exception. Si le conjoint veut se séparer, eh ben on n'y peut rien qu'il se sépare. Il y avait une exception déjà à ce moment-là, et il va y avoir des exceptions également dans le passage qui va suivre. Un enseignement pastoral et pragmatique. L'esclave ne pouvait pas décider de lui-même non plus s'il allait être affranchi ou pas. C'est pas lui-même qui s'affranchissait, c'était son maître qui devait le faire. Et lui, quelque part, il n'avait rien à dire. Cela ne dépendait pas de la volonté de l'esclave que d'être affranchi ou pas. Si tu peux être affranchi, profites-en plutôt. Si la condition d'esclave nourri, logé, blanchi, que l'on entretient, c'était le cas de bien des esclaves qui étaient quand même pouvaient être considérés comme ils avaient au moins le minimum vital, eux. Finalement, c'était quand même une situation qui ressemblerait aujourd'hui à l'entretien qu'on fait à une voiture. On l'entretient la voiture pour pas qu'elle perde sa valeur et pour qu'elle soit au meilleur de ses performances. Ainsi était la condition de l'esclave, mais quand même, il devait être plus avantageux d'être libre, même si on devait souffrir de quelques privations. Et la Bible donne également l'image du rachat des péchés, de l'image du pécheur. Et donc, je ne pense pas que la pensée de Paul ait été ici, au mieux que tu restes esclave. Non, si tu peux être libre, sois affranchi. Mais autrement, ne t'inquiète pas de ta condition d'esclave. Au 21e siècle, comment peut-on traduire cela? Si je suis au SMIC, ou si je suis même que la moitié d'un SMIC, ce n'est pas un problème devant Dieu. Cela ne change rien de la valeur que j'ai aux yeux de Dieu et aux yeux de mes frères et sœurs. Mais si les portes s'ouvrent pour un meilleur travail, alors il faut y aller. Il faut en profiter. Le chrétien ne change pas sa vie, mais la vie du chrétien change tout. Dernière partie. Devenir chrétienne est un vrai bouleversement. La vie change. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vient demeurer dans le croyant. Et il va procéder à d'admirables changements, lui. Ainsi, sans changer sa vie, le chrétien change. C'est-à-dire, c'est un changement qui va s'opérer à l'intérieur. Les motivations, les centres d'intérêt, le caractère, le vocabulaire, la conduite, tout change. Un appel qui change tout, donc. Verset 22. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Quel plus grand changement que pouvait connaître un homme que celui étant esclave de devenir libre. Il était né sans aucun droit. Il appartenait à son maître dès sa naissance, exploité comme un animal, vendu comme une marchandise, aucun droit. Et puis soudain, un papier est signé et le voilà libre. Et tout change. Aller et venir, faire ses propres choix, faire ses propres projets personnels, exister pleinement en tant qu'être humain comme les autres. L'homme est esclave du péché, de la loi et parfois de son environnement. Esclave du péché, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul l'exprime très bien. Romains chapitre 7. Cette parole où il dit, où il considère la grande détresse de... Voici comment il exprime ça. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre mon entendement. Esclave du péché, le Seigneur Jésus en a parlé dans son enseignement à Jérusalem. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. On peut être esclave de la loi aussi. Quand on cherche à être agréable à Dieu par ses propres performances, ses propres moyens, la loi est là pour nous dire « Non, tu n'y arrives pas, tu as perdu ». Et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous libère également de l'esclavage de la loi. Il nous libère de l'esclavage des principes élémentaires des hommes. On avait vu ça dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2. Colossiens. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ, plus loin. Si vous êtes mort avec Christ au principe du monde, pourquoi, comme si vous étiez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui sont fondés sur des ordonnances et des doctrines des hommes, esclaves des principes élémentaires des hommes. Le Seigneur nous a affranchis, et ça c'est un grand changement. On est en effet libre de servir, à la suite de notre verset. L'homme libre, l'esclave a été appelé par le Seigneur. Appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Notre rachat a été légalisé à la croix. Le prix a été payé. Le prix, c'est le sang de Jésus-Christ, nous le savons. Et nous avons entendu l'appel de Dieu. Sors et viens à moi. Je t'ouvre la porte du salut, qui est mon Fils Jésus-Christ. Et nous avons répondu à cet appel. Nous nous sommes levés, nous avons franchi le pas, et nous avons trouvé la vraie liberté en Jésus-Christ. Nous avons trouvé l'adoption dans la famille de Dieu. Et le Seigneur Jésus est devenu notre grand frère, celui qui nous défend, celui qui nous apprend à enfin porter des fruits pour Dieu. Les obligations de la vie normale continuent, le travail, assumer ses devoirs, souffrir et peiner comme tout le monde, et le chrétien va briller dans sa vie normale. Il rayonne d'amour, il rayonne de joie, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Et ainsi, à travers des personnes qui mènent une vie normale, Dieu s'approche au plus près de ceux qui ne le connaissent pas. Il s'approche au plus près de nos concitoyens pour leur faire du bien et pour leur parler de son Fils Jésus. Donc, tout à la fois, tout change dans la vie chrétienne, et tout à la fois, on ne doit rien changer, parce que on doit rester proche des gens qui nous entourent, pour que Dieu puisse les bénir à travers nous, et pour qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce texte ? Ben, peut-être vous êtes arrivé à tout mémoriser, c'est super. Peut-être c'est l'appel de Dieu. Dieu m'a appelé, moi, qui suis-je pour cela ? Je veux répondre à cet appel, je veux me convertir aujourd'hui, je veux devenir un vrai chrétien. Ça peut être un choix, oui, moi j'entends cet appel. Je veux devenir chrétien, je veux croire en Jésus, je veux être sauvé. Ça peut être un rappel que nous sommes tous différents dans l'Église de Dieu. Et on peut trouver cela super. On peut se rappeler que Dieu est une personne. Il n'est pas une administration aveugle. Et quand il est juste, il apprécie mieux la situation de chacun, les circonstances particulières pour en tenir compte. Se souvenir également que je ne suis plus esclave de quoi que ce soit et je n'aime pas à m'inquiéter du regard des autres. Le seul regard qui doit m'inquiéter, c'est le regard de Dieu sur moi. C'est le regard de Dieu sur moi. Ma vie n'est peut-être pas une vie de rêve. appelé avec une part qui était la mienne, qui n'est peut-être pas la meilleure part selon le monde, peut-être pas le plus favorisé, loin de là, mais c'est la part que Dieu a choisie pour moi, afin que je sois au plus proche de ce qui m'entoure pour être une bénédiction et un message de Dieu pour eux. Voilà ce que j'avais partagé avec vous suivant ce texte. On va prier. Seigneur, merci pour les choses extraordinaires que tu produis. Merci pour ce changement intérieur que tu veux produire en nous, ce changement qui se voit de l'extérieur. Merci parce que tu n'as pas choisi de changer nos circonstances, de nous faire vivre des vies de super-héros, comme on voit dans les films, comme on le voit dans les romans. Nous ne serons pas tous, nous serons tous différents. Nous ne laisserons peut-être pas beaucoup de traces sur cette terre, mais tu nous demandes d'être fidèles là où nous sommes et de témoigner là où nous sommes parce que c'est important. Dans ton œuvre grandiose que tu as prévue de toute éternité, nous devions être là pour parler de toi à telle ou telle personne. C'était notre rôle, c'était notre objectif, parler de toi à travers ces fruits de l'esprit que nous portons. Parler de toi à travers le témoignage que l'on porte à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous ne comprenons pas toutes tes œuvres, mais un jour dans le ciel, nous pourrons contempler le résultat final. Merci de nous associer à ce plan merveilleux de salut que tous les anges contemplent. Seigneur, nous voulons tenir notre place, rester là où tu nous as placés, rester fidèles. Nous demandons que tu nous conduises dans tous les choix, les décisions que nous devons faire au niveau professionnel, personnel. Seigneur, guide-nous, que ce soit toi qui ouvre les portes, que ce soit toi qui ferme les portes. Nous ne voulons pas prendre d'initiatives malheureuses qui ne seraient pas bonnes pour nous. Seigneur, nous voulons être fidèles avec toi. Merci de bénir notre Église, Seigneur, qui a besoin de toi aussi. Et merci pour la diversité que nous sommes, tous tellement, tellement différents. Merci pour l'esprit que nous avons donné, qui nous unit. Et nous voulons, Seigneur, te donner de la joie. Dans le nom de Jésus. Amen.